travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Vu du dehors, la forêt amazonienne semble un amas de bulles. Vu de l'intérieur, cette masse confuse devient un univers monumental. La forêt cesse d'être un désordre terrestre. On la prendrait pour un nouveau monde planétaire.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Aujourd'hui, l'Amazonie. L'Amazonie entre fascination et mise en péril. Dans son ouvrage admiré, Triste Tropique, publié en 1955, Claude Lévi-Strauss, à l'issue de ses expériences et travaux en Amérique tropicale, appelait ardemment notre Occident à se départir de son ethnocentrisme. Il nous invitait à considérer que notre manière d'appréhender le monde n'en était qu'une parmi d'autres, celle-ci étant tout aussi légitime et cohérente. Ce n'était pas seulement une affaire d'hygiène intellectuelle, mais aussi une façon d'éclairer les motivations essentielles de comportements séculaires, d'incompréhension, qui ont abouti à des désastres humains et écologiques. Puisque la COP21 et ses résultats sont remis en cause par le président des États-Unis Donald Trump, puisqu'en France, l'accession de Nicolas Hulot au gouvernement prend une signification inverse, symbolique, avant qu'elle soit pratique, je vous propose, dans cette ambiance, un effort particulier, à savoir de considérer sur la longue durée ce qu'ont pu être en Amazonie les ravages d'une intrusion brutale provoquant de formidables déséquilibres. Cette intrusion s'est nourrie d'une curiosité souvent éblouie autant que d'incompréhension ravageuse, de cupidité déchaînée autant que de prétention civilisatrice. Ces ressorts sont au travail aujourd'hui autant qu'ils l'ont été jadis et naguère. Mon invité, Stéphane Rostin, directeur de recherche au CNRS, est le premier archéologue français à s'être spécialisé sur l'Amazonie, où il a vécu une partie de sa vie. Son dernier livre est un magnifique plaidoyer pour la plus grande forêt tropicale du monde, menacée actuellement par plus de dangers que jamais dans le passé. Stéphane Rostin, bonjour.
Bonjour.
Je vous fais entendre une chanson intitulée « Birds, les oiseaux » d'Ima Sumac, qui est une chanteuse péruvienne s'inspirant, nous dit-elle, des sons amazoniens. C'est la diva aux quatre octaves. On entend la capacité qu'elle a de monter et de descendre avec sa voix de façon rare. Vous reconnaissez de fait là quelque chose comme l'écho sonore de votre très chère Amazonie ?
Outre la prouesse de chanteuse, il y a surtout beaucoup d'humour dans sa façon d'utiliser les sons amazoniens, que ce soit les oiseaux ou les sonnailles en graines des Amérindiens. Je trouve que c'est un bel hommage qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, un hommage enjoué de la forêt amazonienne, alors qu'on la voit souvent de façon dramatique, donc j'apprécie particulièrement cette chanson.
Cette forêt où vous avez longtemps vécu, vous la préférez de la sorte, avec quelque chose qui demeure d'une joie de vivre plutôt que triste ou sinistre, ravagée comme on la montre souvent?
Alors moi j'ai connu les deux aspects de cette forêt, cette glauque forêt dans le sens étymologique du terme, verte forêt. Dans la forêt elle-même, sous la pluie, en train de fouiller de la terre, de la boue, c'est parfois un peu déprimant. On se sent un peu perdu, déplacé par rapport à notre monde habituel. Mais en revanche, dès que vous entrez dans un village indien, ce ne sont que cris de joie et chansons. Les Indiens ont beaucoup d'humour et aiment beaucoup rire, alors qu'on les représente hélas trop souvent en n'étant pas très content. L'Indien bravo est souvent photographié très sérieux, alors que dans un village, vous entendez sans arrêt des rires, et c'est un vrai îlot de bonheur au milieu de la forêt.
Le propos de l'archéologue que vous êtes, c'est de montrer que, contrairement à ce qu'on dit parfois, les explorateurs, les envahisseurs n'ont pas trouvé un monde immobile, mais que ce monde est très varié et a beaucoup bougé de siècle en siècle, ce que vos fouilles démontrent.
À vrai dire, pendant très longtemps, on s'est basé sur des préjugés, des a priori pour évaluer l'histoire précolombienne de l'Amazonie. C'est sans doute une énorme erreur historique, notre perception de cette histoire précolombienne. Il aura fallu attendre la fin du XXe siècle pour voir différemment ce passé en se basant sur les recherches archéologiques. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on se comptait sur les doigts d'une main pour, comme archéologue travaillant sur l'Amazonie. Mon plus proche voisin est à 2000 km de moi, donc on n'avait pas souvent l'occasion de se disputer, comme adorent faire les archéologues.
Tâche solitaire, par conséquent.
Très solitaire. À l'époque, il n'y avait pas Internet, et c'est vrai que je vivais en Guyane française à l'époque, et c'était parfois un peu, on se sentait parfois un peu seul, et pas forcément reconnu, puisque un vrai archéologue à l'époque se devait de travailler où? Chez les Aztèques, les Incas ou les Mayas. L'Amazonie n'avait pas de passé. C'est que tout récemment qu'on a réussi à révéler un passé extraordinaire et insoupçonné.
Question faussement naïve, d'où vient l'expression Amazonie? Après tout, cela renvoie à une autre antiquité. Votre livre « Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes », Stéphane Rostin, est fondé sur un rapprochement que je trouve très, très stimulant entre les 12 travaux d'Hercule et ce monde que vous avez contribué à faire ressurgir dans la profondeur de la durée.
Je suis rentré de quelques années de vie en Équateur il y a 3 ans. En arrivant en France, de nouveau, j'ai été très surpris par l'ignorance des gens sur la forêt amazonienne. C'est quand même la plus grande forêt tropicale du monde. 7 millions de kilomètres carrés, c'est la taille de l'Australie, donc c'est un continent. Et les gens ignorent pratiquement tout sur cette forêt.
Jusqu'à ce matin.
Jusqu'à ce matin, j'espère que ça changera à l'heure du déjeuner. En tout cas, je me suis dit, il faut absolument démontrer aux gens ce que c'est, mais c'est pas forcément un sujet qui attire les foules, et j'ai pensé que pour démythifier la forêt amazonienne, le mieux était peut-être d'aller chercher le mythe le plus commun d'Europe, le plus connu, celui d'Hercule et ses 12 travaux, et de mettre en parallèle ce mythe avec la forêt, la véritable forêt amazonienne et ses habitants, pour montrer que finalement ils sont pas si différents de nous, mais ils ont des spécificités.
Amazonie, alors justement, c'est un mot qui vient de l'antiquité gréco-romaine.
Ah, complètement. Il faut dire que les premiers explorateurs, Christophe Colomb le premier, quand il a découvert l'Amazonie dans son troisième voyage à l'embouchure de l'Orénoque, il a cru être arrivé sur le paradis terrestre. Et quelles étaient les connaissances de ces explorateurs à l'époque? C'était basiquement la Bible et les textes antiques.
Les deux sources.
Ils étaient gavés des philosophes classiques grecs.
Gavés, n'est pas gavés, nourris.
Voilà. Non, mais alors, je dis gavé parce que Christophe Colomb, en réalité, avait beaucoup lu avant de voyager. Il avait quelques livres de chevet. Et donc, il s'était beaucoup renseigné sur son voyage. Et il était assez érudit. Et donc, il avait voulu savoir ce qu'on savait du monde et ce que savaient les Grecs du monde.
Alors, quel jeu jouent les Amazones dans tout ça?
Alors, les Amazones, c'est une épopée tout à fait extraordinaire. La première expédition qui a découvert le fleuve Amazone, qui a une grande spécificité, puisque tous les fleuves du monde ont été découverts de la source, de l'embouchure à la source, alors que l'Amazone est le seul fleuve du monde, en étant le plus grand, 6400 km de long, à avoir été découvert depuis ses sources vers l'embouchure.
À partir du Pérou et des Andes.
De l'Équateur, du Quito, une expédition qui est partie de Quito vers l'Est pour chercher le pays de la cannelle. Entre parenthèses, on ne le disait pas, mais aussi de l'or. Ils sont partis très nombreux, 1200. Alors tous les Amérindiens qui avaient été embauchés de force dans les Andes sont morts en arrivant en Amazonie. Et la troupe espagnole s'est retrouvée un peu perdue sur le fleuve Napo, en Équateur. Et ils ont décidé de construire un brigandin et d'envoyer des éclaireurs pour aller chercher de la nourriture. Et à cause du courant, ce brigandin n'a jamais pu revenir à son lieu de départ, et est descendu tout l'Amazone.
Ça, c'est la fameuse expédition d'Orellana, mais vous ne nous avez toujours pas dit, Stéphane Rostin, pourquoi le fleuve s'est appelé l'Amazone.
C'est ça le suspense, parce qu'il faut suivre un peu cette expédition, qui descend donc le fleuve, se fait attaquer par tout le monde, et quand ils arrivent dans le bas fleuve, sur le Tapajos, ils se font attaquer par des guerrières, par des femmes, il n'y a pas d'hommes, et les femmes les noient sous les flèches. Et du coup, ils ont cru reconnaître les Amazones de la Grèce antique, enfin que la Grèce antique située plus vers le Moyen-Orient. Pour eux, c'est les femmes guerrières étaient des Amazones. Et ce qui est intéressant sur les Amazones qui ont fait fantasmer pendant plusieurs siècles les explorateurs et les chroniqueurs de l'Amazonie, c'est cette société au XVe siècle, une société de femmes qui s'autodirigeait, qui prenait les hommes pour des services sexuels et échangeait et fabriquait des objets, c'était une société complètement hérétique pour les gens du XVe siècle. Et c'est pour ça que tant d'auteurs qui n'ont jamais vu les Amazones en ont parlé, ont créé tant de légendes autour d'elles.
Elles ont existé, en fait? Je veux dire, du côté de l'Amazonie, je ne parle pas de la
Pourquoi
Grèce antique.
Pourquoi pas? Pour savoir si elles ont existé, il y a quelques personnes qui travaillent dans cette région, c'est à Santarém, donc dans le bas Amazon. Pourquoi pas? Et pourquoi ce ne serait pas tout simplement... C'était un monde extrêmement mobile, on l'a dit. Les gens voyageaient beaucoup, les hommes partaient beaucoup en expédition, ou de guerre, ou d'échange, et les femmes restaient seules dans les villages. Et quand elles étaient attaquées, elles se défendaient. Au même titre que les hommes. Pourquoi ce n'était pas tout simplement un village où les hommes étaient partis au loin, laissant leurs femmes se défendre?
Alors, comme toujours, pour se sentir à l'intérieur de ce monde immense de la forêt amazonienne, la littérature est un bon truchement. J'ai choisi Blaise Cendrars. Je crois que vous ne le détestez pas. Blaise Cendrars, dans son livre qui s'appelle Le Brésil, un livre de 1952, qui est lu ici dans les ateliers de création radiophonique le 9 décembre 1990. Vous allez voir que le vocabulaire de Cendrars est riche.
Sous la voûte des arbres géants, règne une pénombre verdâtre qu'égaient à peine les lianes fleuries qui pendent des plus hautes branches. Parmi les plantes mystérieuses et sacrées, démoniaques, que l'Amazonien dérobe au péril de sa vie à la sylve sauvage, à la sylve étouffante qui l'assiège, des lianes, des arbustes, des fougères, des épines, des tubercules, des palmiers, des mousses, des champignons, bénéfiques ou maléfiques, qu'on l'abreuve de sang ou qu'on gave de viande, diurnes ou nocturnes, dont certaines aboient comme des chiens à midi, dont d'autres sont mélodieuses dans le vent, et d'autres encore piquent des crises nerveuses, comme des sensitives, quand le temps va changer. Plantes qui piquent, brûlent, égratignent, s'attachent, adhèrent, coupent, forent, scient, collent, distillent des parfums la nuit, ou sont nauséabondes au clair de lune, sternutatoires ou endormantes, et dont les fruits, les feuilles, les bourgeons, les racines, l'écorce, le pollen, la graine sont des poisons, des fébrifuges ou des stupéfiants, dont l'homme des bois sait extraire des poudres ou de la râpe, des teintures ou des sirops, de la moelle ou de la résine, des alcools ou des goudrons, de la gomme ou des cristaux qui entrent dans la composition, souvent à doses infinitésimales, des élixirs ou des eaux tophanes, des drogues divinatoires ou des filtres d'amour, des farines de santé ou des décoctions de mort qu'il prodigue à bon escient. Parmi ces plantes, il en est une, la plus rare, la plus magique de toutes, mais qui ne manque dans aucun jardin secret, qui pousse derrière chaque hutte indigène, et dont chaque Amazonien porte un petit sachet de feuilles sèches sur soi, et qui est la plante la plus mystérieuse de la forêt amazonienne, car jamais aucun blanc n'a pu s'en procurer un plant. Que les savants d'Europe, qui ne la connaissent que par ouï-dire, ont catalogué provisoirement, à cause des effets psychiques qu'elle a quand on en use, parmi les poisons les plus dangereux de l'intelligence, ceux, comme ils disent, qui agissent sur le seuil de la conscience. Mais que tout Amazonien fume tranquillement dans son brûle-gueule. C'est l'ibadou, la plante de la lévitation. Plante légendaire, grâce à laquelle l'homme de la nature, ce prisonnier de la forêt, voyage, sans être comme nous, obligé d'emprunter le navire ou l'avion.
Dans les fameux ateliers de création radiophonique, on n'était pas avare en 1990 d'oiseaux en forme de bruit de fond, n'est-ce pas ?
Mais c'est les bruits de la forêt. Quand on est en forêt, on entend un brouhaha permanent d'oiseaux et d'insectes. Beaucoup d'insectes font des bruits très forts, très stridents, qui accompagnent le voyageur de la forêt amazonienne.
C'est une faune immense, n'est-ce pas ? Le nombre d'insectes est absolument...
Il y a 2,5 millions espèces d'insectes en Amazonie. Pour vous dire, tout est gigantesque en Amazonie. On est dans un monde qui crée la poésie, où vous voyez en écoutant Sandrard, difficile de parler de la forêt sans devenir poète. Mais en tout cas, tout est gigantesque, l'Amazone même. Je parlais de Santarém tout à l'heure. Quand vous êtes à Santarém, la largeur de l'Amazone est de 10 km. Et si vous restez 24 heures à regarder l'eau s'écouler, vous en voyez autant que si vous restez pendant 2 ans sur l'île Saint-Louis à regarder la Seine s'écouler.
Quand vous entendez Blaise Sandrard, un texte de Sandrard, est-ce que vous avez le sentiment que par rapport à la littérature des voyageurs du 16e, 17e siècle, il y a rupture ou continuité ?
D'abord, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que de mettre Sandrard, puisqu'il est sans doute une des causes de ma vocation amazonienne. Puisque enfant, j'adorais lire ses livres, notamment Bourlinguer.
Nous tombons bien, donc.
Ah, très bien. Les deux qui m'ont fait partir, finalement, c'était Sandrard, qui est le littéraire, et Bob Moran, qui est un peu moins littéraire, mais qui m'a aussi fait partir en voyage très loin.
Ah, vous ne m'avez pas dit, sinon je vous aurais fait entendre effectivement un extrait de Bob Moran, mais enfin, c'est déjà ça, Sandrard.
Sandrard, oui. Non, Sandrard a très bien décrit, et puis il a été aussi un plaidoyer contre le bagne de Guyane. Il a écrit des textes magnifiques. On parle souvent d'Albert Londres, qui a défendu la condition des prisonniers, mais aussi Sandrard a parlé de l'épopée de l'or et du bagne en Guyane, et de façon magnifique. Alors évidemment, il y a rupture, puisqu'il prend plutôt le côté poétique, alors que les premiers explorateurs étaient quand même intéressés soit par l'or, soit par les produits naturels de la forêt. Donc il y avait toujours une intention derrière leur voyage qu'il n'y a pas chez le poète du début du XXe siècle.
Une des tentations contre laquelle vous luttez, c'est d'unifier cet ensemble immense et d'oublier l'extrême diversité des parlers, des habitudes, des traditions ethniques.
On voit l'Amazonie comme une espèce d'énorme brocoli géant. C'est vrai que quand on survole la canopée, on a l'impression de voir un brocoli avec tout ce moutonnement d'arbres.
La canopée, c'est l'étage supérieur de la forêt tropicale. Un mot qui vient de canopée, qui veut dire baldaquin en anglais, n'est-ce pas ?
C'est la superficie de la forêt à 50-60 mètres d'altitude. Et vous avez une faune qui est face au soleil, c'est ça qui est important. Vous avez une faune et une végétation qui est directement sous le soleil, alors que quand vous êtes au pied des arbres, vous êtes dans une semi-obscurité et avec une végétation et une faune totalement différentes.
La diversité ethno-linguistique
Alors on parle souvent de la diversité, maintenant les gens le savent bien, l'énorme diversité de la faune et de la végétation en Amazonie, et on oublie un peu ce que j'ai tendance à appeler l'ethnodiversité, c'est que comme sous toutes les tropiques sont des foisonnements de vie, c'est une explosion de diversité dans toutes les, que ce soit les tropiques asiatiques ou celles d'Afrique. En Amazonie, on est dans la diversité. Actuellement, il y a encore 250 langues, et je parle de langues, pas de dialectes, 250 langues amérindiennes qui sont parlées, qui appartiennent à 80 familles linguistiques. À titre de comparaison, regardez en Europe, on a une trentaine de langues, 5-6 familles linguistiques. pour une superficie égale. Non, la diversité est la caractéristique des tropiques.
C'est à cause de notre Guyane qu'on peut dire qu'on parle en France entre 40, 45 langues différentes, c'est ça ?
Grâce à la Guyane, oui, où il y a une grande diversité aussi ethnique, avec des Amérindiens, que ce soit sur la côte ou à l'intérieur. Et on peut dire aussi qu'on a une frontière avec le Brésil.
Les premiers explorateurs ont eu le sentiment d'une Babel tropicale, ou bien ils ont eu tendance, avec le regard simplificateur, à imaginer une sorte de similitude de lieu en lieu dans la forêt tropicale.
Je dirais qu'ils étaient tellement surpris par la différence qu'ils ont un peu englobé tout le monde dans le même sac et voyaient une homogénéité chez les Amérindiens. D'abord, ils se sont beaucoup défiés d'eux, à savoir si c'était des hommes ou pas.
Grand débat qui a agité tout le monde intellectuel, j'en prends le mot de façon anachronique, l'ensemble des débats avec en particulier la controverse de Valladolid.
Oui, et puis après, il y a eu le bon sauvage. Ça a été vraiment un débat qui a animé 4 siècles, je dirais, d'exploration.
Montaigne est évidemment très important avec son chapitre « Les cannibales ».
Eh bien, tout ça participait de cette discussion qui, finalement, s'est arrêtée avec le début de l'archéologie. À la fin du 19e siècle, on a arrêté de collecter parce qu'on collectait à la fin des crânes d'Indiens pour pouvoir les mesurer et les comparer avec des crânes d'animaux et des crânes d'humains en Europe. Et finalement, l'archéologie a peut-être donné au début du 20e siècle une identité humaine aux populations précolombiennes, une identité qu'on leur refusait peut-être un peu auparavant.
Tout cela est largement une affaire de temporalité. Les voyageurs, les explorateurs ont l'impression et traduisent l'impression de leurs ouvrages d'un rythme différent dans cet ensemble. Par exemple, je vais vous faire entendre un propos de Davy Kopenawa. C'est un Yanomami. Je souhaite qu'on entende une langue parmi toutes. C'est un extrait d'Appel d'air de Marie-Hélène Fressé. Marie-Hélène Fressé, qui, sur France Culture, connaît si bien toutes ces choses, le 16 mai 2003.
Et pas un, il y a Tag Mahimimki. Ya Mithabuba, dia 15 de fevereiro de 1956.
Je ne suis pas très sûr des chiffres de mon âge, mais sur mes papiers d'identité, c'est 15 février 1956. Peut-être à peu près je suis né. Donc nous, on n'utilise pas des chiffres, donc on imite un peu vos façons de garder les âges, mais je ne suis pas très sûr. Lorsque je suis né, j'étais un tout petit bébé, ni mes pères, ni mes grands-pères n'avaient jamais vu les Blancs.
Il a le souvenir de la première arrivée, justement, du monde extérieur dans cette vie, dans la forêt.
Donc personne ne lui avait parlé des Blancs, il était encore un enfant grand comme ça, et la première fois que les Blancs sont venus, personne ne les avait invités, personne ne les avait appelés. Ce sont des Blancs qui sont mis à remonter la rivière en direction du territoire Yanomami, et c'était une commission des frontières. C'était des militaires chargés de la délimitation de la frontière entre le Venezuela et le Brésil.
Des Brésiliens.
C'était des Brésiliens, oui, en remontant en territoire brésilien jusqu'à la délimitation de la frontière avec le Venezuela. C'était sur la rivière Demini, qui est un affluent du Rio Negro.
Et quelles ont été les conséquences de ces premiers contacts ?
Ils sont arrivés, remontés, on ne les connaissait pas, on les a observés, on ne savait pas de qui il pouvait s'agir, donc on s'est dit que c'est peut-être des gens dangereux.
Frontières temporelles et frontières géographiques.
David Kopenawa a écrit un magnifique livre avec Bruce Albert, La chute du ciel, qui défend un peu le point de vue amérindien. Et c'est peut-être celui qu'on oublie un peu trop souvent. Les Amérindiens conçoivent le monde de façon radicalement différente de la nôtre. Je renvoie au livre de Philippe Descola pour cela.
Professeur au Collège de France, un des élèves de Claude Lévi-Strauss.
Oui, et qui est maintenant une figure de proue de l'ethnologie mondiale. On a tendance à vouloir concevoir la forêt selon nos principes linéens, selon notre science, et on oublie trop souvent la science amérindienne. Les Amérindiens ont créé une science qui leur est propre, qui est très différente de la nôtre, qui résulte de 10 000 ans d'occupation dans la forêt. Et ils ont une façon de concevoir le monde qui est radicalement différente de la nôtre, qui est hiérarchisée. Les Amérindiens créent des groupes qui sont entremêlés, des groupes chez les plantes, des groupes chez les hommes, chez les esprits de la forêt. Et il n'y a pas de hiérarchie ni de groupe supérieur à l'autre. Ce qui fait qu'ils ont, en écoutant leur manière de penser, on peut apprendre beaucoup plus sur la forêt que parfois de notre manière un peu trop systématique.
C'est ce que n'ont pas pu comprendre les Européens arrivant dans ce monde, qui nourrissait une vision très, très hiérarchique de la société.
Oui, les Européens sont arrivés, ils avaient, comme je le disais, la Bible et les textes classiques comme référence, et ils ont essayé de faire coller leurs préjugés. À cette époque, on découvrait le monde, on découvrait de nouveaux animaux. D'avoir des personnes qui n'avaient qu'un pied ou le visage sur la poitrine était aussi acceptable que le renard ou le lion. Et donc on arrivait, on espérait voir des monstres de ce nouveau pays, et quand on les voyait pas, on les inventait. Et donc durant deux siècles, on a accepté l'existence des cynocéphales, des hommes à la tête de chien.
Des hommes sans tête aussi.
Des hommes sans tête avec la tête sur le poitrail, des Indiens longues oreilles. On a accepté tout l'impossible, et on a vécu les premiers siècles de la découverte de l'Amazonie en suivant les légendes qui continuent jusqu'à nos jours. Il y a encore des explorateurs qui vont à la poursuite du Païtiti et des mythes les plus anciens sur l'Amazonie.
Ah non, bon, il y en a encore. Oui.
Il y en a encore, des Français notamment.
Permanence.
Qui continuent à chercher désespérément l'or perdu d'Amazonie.
Ah oui, l'or, mais pas les hommes sans tête.
Non, mais ça participe des mêmes mythes finalement. C'est des concepts qui ont été créés non par l'observation, mais par les croyances.
Il y a un domaine évidemment qui a beaucoup frappé les nouveaux venus et qui aujourd'hui paraît un peu dépassé, c'est la question du cannibalisme, la question de l'anthropophagie. Et à cet égard, un livre a joué un rôle essentiel, c'est celui de Hans Staden, cet explorateur qui a failli être consommé, qui a échappé un peu par miracle et qui a raconté son histoire sous le titre « Nu, féroce et anthropophage ». C'est un des best-sellers du XVIe siècle. Un peu comme nous avons eu notre papillon il y a une trentaine d'années, le bagnard qui s'était échappé du bagne de Guyane. Mais c'est plus intéressant. Rappelez-nous, puisque nous consacrons cette émission, Stéphane Rostin, au regard jeté par l'Occident vers l'Amazonie. Ce regard de Staden est important. Comment est-ce qu'il en est arrivé à cette situation tragique à laquelle il a finalement échappé ?
Mais c'est vrai que la première ligne de défense de l'Amazonie, c'était la côte brésilienne, qui était peuplée d'anthropophages. Donc il a fallu franchir une sacrée série de dents avant de connaître l'intérieur de la forêt. Et Hans Staden s'est retrouvé prisonnier pendant 9 mois des anthropophages. On a sorti un livre qui était un best-seller. Évidemment, il y avait tous les ingrédients pour vendre à l'époque. Il y avait l'horreur, il y avait le sexe, il y avait le sang. Et ce livre avait en plus un gros avantage, c'est qu'il était illustré d'une 60aine de gravures sur bois assez terrifiantes. C'était un peu une bande dessinée sensationnelle que Hans Staden a publiée, d'où le succès immédiat à travers toute l'Europe de son ouvrage qui a été traduit très vite. En tout cas, son regard est un regard très frais, sans condamnation, sans revanche. Il essaie de comprendre qui étaient ces hommes, et peut-être ce regard-là, ingénu, a été perdu au cours de notre histoire avec l'Amazonie.
C'est un arquebusier dans le village d'Ubatuba, sur le littoral atlantique du Brésil. Comment en est-il arrivé là ?
Il s'est juste fait prisonnier lors d'une bataille par les Tupinamba, qui l'ont amené dans son village, comme ils le faisaient régulièrement avec leurs prises de guerre. On emmenait le prisonnier pour l'intégrer dans le village, et l'intégration suprême venait par la consommation des chairs. On est dans des sociétés de prédation, de parasitisme et de transformation. Donc manger son ennemi est finalement une façon de le faire vivre éternellement au sein du groupe.
Et cela ne peut que fasciner les Occidentaux qui arrivent dans cette région. Voici ce rituel mortel tel que décrit par Hans Staden. C'est un extrait des Étoiles de France Inter, 9 février 1980, une émission d'André Asseo.
Quand les prisonniers arrivent au village, les femmes et les enfants les accablent de coups. On les couvre ensuite de plumes grises, on leur rase les sourcils et l'on danse autour d'eux. Ensuite, les sauvages les attachent fortement afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Puis ils les mettent sous la garde d'une femme qui vit avec eux. Si cette femme devient grosse, ils élèvent l'enfant. Et quand l'envie le leur prend, ils le tuent et le mangent. Ils nourrissent bien leurs prisonniers. Au bout d'un certain temps, ils font leurs préparatifs, fabriquent de la boisson et une espèce de vase destinée spécialement à mettre la couleur avec laquelle ils les peignent. Ils font des touffes de plumes qu'ils fixent aux manches de la massue qui sert à tuer les captifs et une longue corde nommée Masarana avec laquelle ils les attachent quand ils doivent être assommés. Lorsque tout est préparé, ils arrêtent le jour du massacre, ils invitent les habitants des autres villages à assister à la fête et remplissent tous les vases destinés à contenir la boisson. Un ou deux jours avant, ils conduisent les prisonniers sur la place du village et dansent autour d'eux. Quand les autres qu'ils ont invités sont arrivés des autres villages, le chef les salue en leur disant « Venez nous aider à dévorer notre ennemi ». Ensuite, ils peignent la figure du prisonnier. Et pendant qu'une femme est occupée à cette opération, toutes les autres chantent autour de lui. Aussitôt qu'il commence à boire, on amène le prisonnier qui boit aussi et cause avec eux. Après avoir bu pendant un jour, ils construisent au milieu de la place une petite cabane où le prisonnier doit coucher. Le matin, longtemps avant l'aurore, ils se mettent à danser autour de la massue qui doit servir au supplice. Dès que le soleil est levé, ils vont chercher le prisonnier, démolissent la cabane et déblaient la place. 14 ou 15 Indiens entourent celui qui doit faire l'exécution et lui peignent le corps en gris avec de la cendre. Celui-ci se rend avec ses compagnons sur la place où est le prisonnier. L'Indien qui tient la massue la lui remet. Le principal chef s'avance alors, la prend et la passe une fois entre les jambes de l'exécuteur, ce qu'il regarde comme un honneur. Celui-ci la reprend, s'approche du prisonnier et lui dit « Me voici, je viens pour te tuer, car les tiens ont tué et dévoré un grand nombre des miens. » Le prisonnier lui répond « Quand je serai mort, mes amis me vengeront. » Au même instant, l'exécuteur lui assène sur la tête un coup qui fait jaillir la cervelle. Les femmes s'emparent alors du corps, le traînent auprès du feu, lui grattent la peau pour la blanchir et lui mettent un bâton dans le derrière pour que rien ne s'en échappe. Lorsque la peau est bien grattée, un homme coupe les bras et les jambes au-dessus du genou. Quatre femmes s'emparent de ses membres et se mettent à courir autour des cabanes en poussant de grands cris de joie. On l'ouvre ensuite par le dos et on se partage les morceaux. Les femmes prennent les entrailles, les font cuire et en préparent une espèce de bouillon nommé mingao qu'elles partagent avec les enfants. Elles dévorent aussi les entrailles, la chair de la tête, la cervelle et la langue. Les enfants mangent le reste. Aussitôt que tout est terminé, chacun prend son morceau pour retourner chez lui. L'exécuteur ajoute un nom au sien et le chef lui trace une ligne sur le bras avec la dent d'un animal sauvage.
Comment faut-il comprendre ces rituels qui ne doivent guère, pour l'essentiel, Stéphane Rostin, être préservés aujourd'hui ?
Non, il y a presque plus de cannibalisme. Officiellement, il n'y en a plus. Quoique, il y a quelque temps, j'étais en Amazonie équatorienne, dans une région où il y avait, au XVIIIe siècle, des Gaès considérés comme cannibales. Il y avait un prêtre qui avait relaté que ces Gaès capturaient les enfants d'autres villages pour les gaver, les faire grossir avant de les manger. Et j'arrive dans un village quichua. J'étais donc en Amazonie équatorienne il y a quelque temps. Et je vois que tout le monde s'en va quand j'arrive. J'étais avec deux collègues. Et je m'approche d'une femme qui cachait ses enfants. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous fuyez? Et la dame me répond, je sais très bien pourquoi vous êtes là. Vous voulez capturer nos enfants pour les faire grossir et les manger. Le mythe s'était retourné contre nous, un retour de bâton. Enfin, j'aurais envie de dire un retour de fourchette même. Puisqu'ils avaient peur de nous comme étant des cannibales. À tel point que 2 mois auparavant, ils avaient tué un touriste nord-américain pour soupçon de cannibalisme. Donc les mythes se retournent, nos propres mythes se retournent contre nous 3 siècles plus tard.
Le regard des Européens évolue, en particulier on voit à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, la préoccupation scientifique qui apparaît et qui s'impose avec un certain nombre d'explorateurs, dont le plus fameux est peut-être la Condamine. Mais d'autres ensuite surviennent au 19e avec les frères Humboldt, avec Henry Walter Bates, avec Alfred Russel Wallace et avec d'Orbigny.
Oui, alors il y a eu en effet quelques expéditions, assez peu comparées à d'autres régions du monde, des expéditions de découverte de l'Amazone. La Condamine était partie un peu sur un pari. On était déjà en dispute avec l'Angleterre à l'époque.
On est en 1744.
Oui, il était parti en Équateur pour calculer l'arc du méridien pour savoir si la Terre était ronde ou aplatie au pôle.
Il y a aussi au même moment des expéditions vers le pôle Nord avec le même dessin.
Exactement, c'était en calculant l'arc du méridien au pôle Nord et sur l'Équateur qu'on pouvait savoir si la Terre était ronde ou pas. Sauf que l'expédition est restée beaucoup plus longtemps que prévu. Au pôle Nord, ils sont revenus au bout de quelques mois, alors qu'en Équateur, ils sont restés plusieurs années. Et voyant que de toute façon, la mission avait un peu périclité, la Condamine a décidé de redescendre l'Amazone et a fait quelques expériences, notamment en Guyane, où il a fait tirer des canons à Cayenne pour calculer la vitesse du son. Il a fait toutes sortes d'explorations. Il a essayé de savoir si les Guyanes étaient une île ou pas, puisqu'on est une anomalie géographique fait des Guyanes une espèce d'île au milieu de l'Amazonie, puisqu'il y a le Rio Negro, l'Amazone, l'Atlantique, l'Orénoque, et un canal qui connecte deux bassins versants, ce qui est une caractéristique assez anormale dans la géographie du monde. Donc la Condamine a essayé de connaître un peu plus l'Amazonie. Il y a eu assez peu d'expéditions finalement, puisqu'on peut les compter sur les doigts des deux mains, qu'elles soient françaises, allemandes ou anglaises, qui ont permis de connaître au 18e, 19e l'Amazonie. Ça commence réellement au 20e avec des explorateurs, parfois des fins militaires, qui essaient de connaître un peu plus l'Amazonie. L'Amazonie, de toute façon, c'est une terre de découverte. On a passé son temps à découvrir des choses insoupçonnées. Il y a eu le caoutchouc, il y a eu l'or, il y a eu le pétrole. On découvre sans arrêt des nouvelles ressources en Amazonie et dans notre avidité à les récupérer, on cure complètement l'Amazonie de toutes ses richesses.
Mais là, c'est une continuité, incontestablement. Il y a d'abord eu le retour des plantes nouvelles qui ont contribué à modifier la nourriture, même en Europe. Je pense évidemment à l'ananas, au manioc, à la patate douce, au cacao, au piment. Et puis, il y a aussi le tabac qui nous arrive de là-bas.
À vrai dire, on oublie souvent, on est tellement focalisé sur le vieux monde qu'on croit que la néolithisation est née au Moyen-Orient avec la domestication du blé. Si on regarde tous les foyers de domestication de plantes dans le monde, on en a à peu près 14. Et sur ces 14, il y en a 11 qui sont sous les tropiques. Et quand je parle de foyers, autant dans beaucoup de foyers de pays tempérés, c'est une ou deux plantes qui sont domestiquées. En Amazonie, on estime à plus de 85 plantes domestiquées. 65% des plantes consommées en Amérique proviennent de l'Amazonie. Il y a vraiment aussi là un foisonnement d'inventivité des populations pour rendre des plantes consommables. Je vais prendre le simple exemple du manioc amer, qui est un tubercule qui est empoisonné. Et il faut le traiter pour pouvoir le consommer. Et c'est tout un processus assez compliqué pour extraire le cyanure qui est dedans. Et cette plante empoisonnée est devenue la plante de base de tous les groupes amérindiens. Ce qui est incroyable, parce qu'il faut vraiment le détoxifier. Et cette plante est arrivée très rapidement d'ailleurs en Afrique, où elle a été adoptée par les populations africaines. Donc on doit beaucoup à l'Amazonie et on l'oublie souvent.
Le regard de ces savants est un regard qui est partiellement occulté par des préjugés, comme avant eux, comme peut-être après eux.
J'ai tendance à croire que depuis Hans Staden, qui fait une observation assez condescendante des Amérindiens, mais toujours amicale.
C'est lui qui a échappé au cannibalisme.
Exactement. Depuis, l'observation des Amérindiens n'a fait que tomber, d'être de moins en moins humaine. À l'époque de l'humanisme, on parlait du bon sauvage, on se demandait encore s'il était complètement humain. Par la suite, c'est un objet d'étude. Et aujourd'hui, on parle souvent des Amérindiens en chiffres et non pas en humains.
Ce n'est pas le cas de Lévi-Strauss, que je n'aurais que
tout,
je célébrais tout à l'heure. Alors, il faut qu'on entende sa voix, n'est-ce pas? Stéphane Rostin.
Il a ouvert des voies de compréhension indiscutables et utilisées par nous tous encore aujourd'hui.
Mais voilà une interview, un extrait d'interview par Jean Maisonneuve dans l'émission Connaissance de l'homme. On est le 30 janvier 1952, la question est formulée selon le grain du temps, comme on dit. Mais Lévi-Strauss sonne très moderne.
Permettez-moi une parenthèse. En raison de ces règles compliquées, l'écart des âges entre les époux doit parfois être considérable. Le cas était d'ailleurs assez courant en Europe, jusqu'au 19e siècle inclus, mais nous paraît aujourd'hui déplorable.
Ouais, ben j'ai connu chez certains Indiens d'Amazonie un cas assez frappant d'un homme de 30 à 35 ans qui était fiancé avec une petite fille de 2 ans. Et je dois dire que le spectacle était fort touchant, car on voyait dans les sentiments qu'il éprouvait à son égard se cumuler à la fois une tendresse quasi paternelle, celle d'un fiancé et celle d'un frère aîné. On arrive ainsi à créer des liens sentimentaux très forts, et on dit dans certaines sociétés que quand des époux ainsi fiancés avec un très grand décalage sont séparés, ils meurent tellement l'attachement qui les unit est fort.
Une possibilité de choix conjugal reste-t-elle autorisée par les codes archaïques? Car enfin, il se pourrait que certaines jeunes filles répugnent violemment à sacrifier un amour pour subir une alliance rituelle. L'obéissance au contrôle social est-elle si régulière que beaucoup d'auteurs depuis Durkheim tentent à l'affirmer?
Les sociétés où les règles du mariage sont si strictes qu'il n'y a pour chaque individu qu'un conjoint possible sont rares. De plus, il faut bien se dire que l'angoisse essentielle d'un individu de quelque sexe qu'il soit dans une société primitive, ça n'est pas tellement d'être marié contre son gré, c'est de ne pas trouver un conjoint. Car les règles de la division du travail entre les sexes sont telles que le célibataire représente la véritable malédiction de la société primitive, c'est un être incomplet qui ne pourra jamais satisfaire à ses besoins.
Stéphane Rostin, quelle réaction à ce propos?
Eh bien, le regard de Lévi-Strauss qui nous apprend comment essayer de comprendre ces sociétés si différentes de nous. Elles ont une histoire qui est radicalement différente de nous. Ces deux continents qui se rencontrent 10 000 ans après l'apparition de l'homme en Amérique. Pour comprendre ces populations, il faut savoir les écouter. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas su faire pendant longtemps, c'est écouter réellement ce que disaient les Amérindiens et quelle était leur conception du monde qui, comme ils le montrent, c'est pas important de se marier avec quelqu'un de plus jeune ou plus vieux. L'important est de ne pas rester seul dans la société amérindienne.
Alors il faut en venir naturellement à la question de l'avidité, avidité en face de l'or, des diamants et du caoutchouc aussi, ces richesses qui sont en quelque sorte arrachées par l'Occident à la forêt amazonienne. Ça a d'abord été l'or.
On s'est comporté comme des enfants mal éduqués en Amazonie. On s'est servi de la boîte de bonbons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, sans se poser de la question si on pourra en avoir d'autres par la suite. L'Européen est arrivé à décider qu'il était propriétaire de cette Amazonie. Alors les Amérindiens, qui n'avaient pas le même sens de la territorialité, ne disaient rien. Et puis un jour, on leur dit « Maintenant, vous obéissez à des lois externes ». C'est ce que me racontaient des Amérindiens, des Kalinas de Guyane, qui disaient « Vous, on vous a laissé vous installer, vous vous êtes multiplié, et puis un jour, vous avez voulu qu'on accepte vos lois. Mais il n'y a jamais eu de guerre, il n'y a jamais eu de traité. Au nom de quoi vous nous demandez de vous obéir ?» Et on a fait la même chose avec les ressources naturelles de l'Amazonie, que ce soit le bois, l'or. On s'est servi sans penser à la régénération, alors que le maître mot, sans être des vrais écologistes, les Amérindiens pensent toujours à la régénération derrière l'emploi qu'ils font de la forêt, que ce soit la chasse, la pêche, l'agriculture. Ils pensent toujours au retour d'une situation semi-naturelle après eux. Nous, on se sert, quand on fait des routes, on détruit complètement toute possibilité de repousse des arbres, en allant jusqu'au sous-sol stérile.
Et pour chercher de l'or, on empoisonne la terre avec du mercure.
On se comporte comme les derniers des soudards, des gougnafiers vis-à-vis de cette nature, puisque de toute façon, c'est la nature sauvage, on peut bien faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que l'or qui est récolté nécessite, dans certains cas, du mercure pour l'amalgamer, et on laisse ce mercure se propager dans les eaux, les poissons les ingèrent, et après les Amérindiens mangent ces poissons. On a vu apparaître depuis une 50aine d'années des maladies dégénératives chez les Indiens, des maladies qui n'existaient pas. Mais on ne se pose pas la question. C'est toujours le discours et le discours de beaucoup de pays amazoniens où on ne se pose pas la question de la survie des Amérindiens. On les laisse finalement mourir de leur petite mort. On peut même précipiter leur mort. Certains présidents, comme au Brésil ou au Pérou ou en Colombie, voulaient même éradiquer complètement les Amérindiens parce que finalement, c'était des empêcheurs de tourner en rond.
Quand on parle de l'or en Amazonie, on songe aussitôt, Stéphane Rostin, à Eldorado. Il faut que vous nous parliez de Eldorado.
Alors Eldorado, c'est un mythe qui est né en Colombie, d'un chef indien qui se serait baigné, après cette pain d'or, se serait baigné dans un lac, et donc aurait laissé les paillettes aller au fond du lac avec des tas d'objets en or.
Évidemment. Parce que pour lui, l'or était beaucoup moins important que pour les envahisseurs.
Bien sûr, qui ont tout de suite accroché à ce mythe. Ça les a fait fantasmer. Le premier, le plus connu, c'est Walter Raleigh, l'anglais qui est allé chercher dans le fin fond des Guyanes cet Eldorado. Sur certaines cartes, on va même voir une représentation d'Eldorado, Manoa, la cité de l'or. Et Raleigh a perdu la tête dans le sens figuré, mais aussi dans le sens propre, puisqu'il a fini décapité. Il a perdu la tête pour l'or. Et cette quête de l'or s'est poursuivie durant toute l'histoire coloniale de l'Amazonie. Et elle se poursuit encore aujourd'hui.
L'expédition dont vous parliez tout à l'heure, celle d'Orellana, le premier qui a descendu l'Amazone, a été liée à l'ambition de Pizarre, le grand conquérant, qui précisément est ému par l'appétit de l'or et de la cannelle.
La cannelle, à l'époque, était un produit très rare. Il ne faut pas oublier qu'au 15e, 16e siècle, les épices, la cannelle, étaient des denrées très rares qui ne circulaient pas facilement. Il fallait les chercher souvent dans des pays très lointains et représenter une valeur marchande énorme et plus facile à transporter, évidemment, que l'or qu'on ne trouvait pas non plus en abondance. Il n'y avait pas tant d'or que ça. L'or précolombien allait beaucoup vers les Andes. En Amazonie, les populations n'avaient pas grand-chose, n'avaient aucun intérêt pour ce produit, à vrai dire.
Mais d'autres en avaient beaucoup. C'est toute l'histoire du choc entre ce qu'on appelle les garimperos, c'est-à-dire les chercheurs d'or et de pierres précieuses, l'affrontement entre ceux-ci et les populations autochtones.
On victimise souvent les Amérindiens et on accuse les garimperos, mais les garimperos sont eux-mêmes des victimes d'un système. C'est souvent des gens qui étaient extrêmement pauvres dans des régions les plus pauvres du Brésil et qui allaient avec un rêve de fortune vers l'Amazonie et évidemment se comportaient en concurrent direct des Amérindiens. Mais il faut quand même reconnaître que ces gens étaient très malheureux, que soi-même, durant la récolte du caoutchouc, c'était des semi-esclaves exploités par les grands propriétaires de la région. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de pauvreté en Amazonie, mais il y a eu une époque où il y a eu beaucoup de richesses aussi, notamment à Manaus. Ils ont construit un opéra magnifique.
Où Sarah Bernhardt est venue?
Non, ça c'est une légende.
Alors bon, ça va beaucoup surprendre nos auditeurs.
Mais il y a une chose en revanche qui est vraie, c'est que devant l'opéra, on avait mis des pavés de caoutchouc pour que les roues et les sabots des chevaux ne fassent pas de bruit et ne dérangent pas le spectacle.
Là, cela nous conduit à une autre richesse qu'on a extraite de cette forêt amazonienne, et c'est la richesse du caoutchouc avant que le caoutchouc artificiel ait été inventé.
Oui, et puis avant que la recette du caoutchouc, si on peut dire, ait été volée et transportée en Asie, on n'arrivait pas à faire de plantation de caoutchouc en Amazonie, ça n'a jamais pris. Alors plusieurs barons du caoutchouc ont essayé, et le caoutchouc, un peu comme le cacao, demeurait longtemps une production artisanale, familiale, à des fins industrielles. C'est-à-dire qu'on envoyait des gens chercher du caoutchouc, des petites quantités. Alors, il fallait circuler dans la forêt pour trouver les arbres de caoutchouc et les inciser,
les EVA.
Prendre la sève. Les EVA, exactement. Et donc, c'était une petite production familiale qui, une fois exportée, devenait industrielle. Mais la collecte même du produit était artisanale, comme l'a longtemps été le cacao en Afrique ou en Amérique du Sud.
Ah, il faut que nous en venions à cet autre fléau qui a pesé beaucoup et pendant longtemps et qui pèse toujours sur cette Amazonie que nous considérons ce matin, c'est la déforestation. Je vais vous faire entendre un extrait du voyage en terre de Brésil par Jean de Léry, un des plus fameux explorateurs. C'est un texte qui remonte à 1580 et qui est lu ici dans la matinée de l'Inactuel. Sur France Culture, 20 septembre 1977.
Nos Tupinambous sont fort ébahis de voir les Français et les autres des pays lointains prendre tant de peine pour aller quérir leur arabotane, c'est-à-dire bois de Brésil. Il y eut une fois un vieillard des leurs qui me fit cette demande. Que veut dire que vous autres, mère et perros, c'est-à-dire français et portugais, vous veniez de si loin chercher du bois pour vous chauffer? N'y en a-t-il pas dans votre pays? Je lui répondis que si, et en grande quantité, mais pas de la même espèce que les leurs, ni même du bois du Brésil, que nous ne le brûlions pas, comme ils le pensaient, mais les nôtres l'amenaient pour faire de la teinture, comme eux-mêmes en usent pour rougir des cordons de coton, plumages et autres choses. Il me répliqua soudain, « Oui, mais vous en faut-il tant ?»« Oui, lui dis-je, car, en lui faisant trouver bon, il y a tel marchand en notre pays qui a plus de frises et de draps rouges, voire même, m'arrangeant toujours pour lui parler des choses qui lui étaient connues, plus de couteaux, ciseaux, miroirs et autres marchandises que vous n'en avez jamais vu par de ça, et un seul de ces marchands achètera tout le bois de Brésil dont plusieurs navires reviennent chargés. » « Ah ah, dit mon sauvage, tu me comptes des merveilles. » Puis il m'interrogea à nouveau. « Mais cet homme si riche dont tu me parles, ne meurt-il point ?»« si fait, lui dis-je, aussi bien que les autres. » Sur quoi, comme ils sont aussi grands discoureurs et poursuivent fort bien un propos jusqu'au bout, il me demanda de rechef, « Et quand il est mort, à qui donc est tout le bien qu'il laisse ?»« À ses enfants, s'il en a, et à défaut de ceux-ci, à ses frères, sœurs et plus proches parents. » « Vraiment, dit alors mon vieillard, lequel, comme vous le jugerez, n'était nullement lourdeau, à cette heure, je comprends que vous autres mères, c'est-à-dire français, vous êtes de grands fous. Car vous faut-il tant peiner à passer la mer sur laquelle, comme vous me le dites en arrivant ici, vous endurez tant de maux pour entasser des richesses pour vos enfants ou ceux qui vous survivent? La terre qui vous a nourri n'est-elle pas aussi suffisante pour les nourrir? Nous avons, ajouta-t-il, des parents et des enfants que nous aimons et chérissons, comme tu le vois. Mais nous nous assurons qu'après notre mort, la terre qui nous a nourris les nourrira. Nous ne nous en soucions donc pas davantage et nous nous reposons sur cela. Voilà, sommairement et dans sa vérité, le discours que j'ai entendu de la propre bouche d'un pauvre sauvage américain.
Il m'a semblé, Stéphane Rostin, que ce texte illustrait assez bien les propos de Claude Lévi-Strauss que je reproduisais tout à l'heure sur l'absurdité qu'il y a à imaginer une supériorité d'une façon de penser, de voir le monde par rapport à une autre.
C'est exactement ça. Je trouve ce texte, comme d'autres textes qui ont été lus ce matin, montre bien l'individualisme des Européens face à un esprit généreux et collectif des Amérindiens. Mais à propos du Pernambouc, qui est quand même un arbre qu'on appelle Pau do Brasil, qui a donné son nom, la peau de braise, qui a donné son nom au Brésil, c'est un arbre qui a fasciné les Européens, parce que l'écorce donne une couleur donc rouge, rosée, fabuleuse. Et j'ai travaillé quelques années à Aruba, une petite île au large du Venezuela, qui à l'époque précolombienne était recouverte d'une forêt de Pernambouc. Et notre avidité a fait qu'on a complètement coupé tous les arbres de cette petite île. Et ces arbres n'ont jamais repoussé, puisqu'il y avait tellement de vent dans cette île que les arbres n'ont pas pu repousser. Et on a pelé, les Hollandais en l'occurrence, ont pelé cette île. Et ce Pernambouc a un autre usage assez peu connu. J'ai un ami maître archetier en Bretagne qui utilise le Pernambouc, qui est le meilleur arbre assez élastique et résistant, pour faire des archers. Le problème, c'est que cet arbre est aujourd'hui protégé au Brésil. Et donc, pour avoir des réserves de Pernambouc, c'est quasiment impossible. Donc, les prochains archers qui seront fabriqués un peu partout dans le monde seront avec un autre arbre que le Pernambouc.
Le grand photographe Salgado, le photographe brésilien, qui s'est beaucoup employé à défendre la forêt contre les assauts de toutes sortes, raconte que quand il avait 8 ans, il avait été le témoin d'un moment où on avait abattu un péroba de 40 mètres, qui était centenaire. Il en avait éprouvé une douleur qui est aujourd'hui encore un ressort pour son action.
Ces émotions apparaissent d'ailleurs toujours très fortement dans ces photos. Il est surtout célèbre pour ses photos de la Serra Pelada, cette montagne qui a été creusée en son milieu, un immense cratère par des chercheurs d'or pendant quelques années. Et c'était une fourmilière humaine assez terrifiante de pauvres hères qui espéraient la fortune. Et il a fait des photos qui, à mon avis, dénoncent de façon convaincante nos exactions sur cette forêt.
Dans votre livre, vous citez à bon escient quatre vers fameux de Ronsard qui font de lui un ancêtre de la défense et illustration des forêts contre certains assauts brutaux. C'est Ronsard. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce.
Eh bien, Ronsard, finalement, était peut-être un Amérindien, puisqu'il voyait dans la forêt des habitants, évidemment, humains, animaux, mais aussi des esprits et des êtres dits fantastiques. Pour lui, il y avait égalité entre tous les habitants de la forêt. Et en ça, il était Amérindien.
Il est né en 1524, c'est-à-dire quelques années avant la première descente de l'Amazone que nous évoquions. Et il écrit un vrai réquisitoire contre le vandalisme de ses contemporains pour défendre la forêt du pays de Gâtine dans le Loir-et-Cher et pour protéger les habitants non humains de ces bois.
J'ai voulu terminer mon livre avec cette citation, puisqu'il semblerait qu'elle ait été mal entendue ou pas écoutée suffisamment, puisque nous continuons à attaquer cette forêt de façon inconsidérée. Et pour revenir à votre présentation de début d'émission sur la COP21, je pense que la grande erreur que nous avons aujourd'hui est de vouloir continuer à penser, selon notre science, selon notre approche, la protection de la Terre pour éviter les changements climatiques trop drastiques. Mais il faudrait peut-être apprendre à écouter les populations autochtones qui ont une autre approche, une autre vision de la nature. Parfois, leur enseignement pourrait nous aider à mieux comprendre, à mieux faire vis-à-vis de la Terre. Il faut arrêter de penser que toute science vient de l'Europe, de chez nous. Les autres populations ont des choses à dire aussi.
Est-ce que la sauvegarde est possible ? Est-ce que nous pouvons être optimiste à cet égard, à la fois du point de vue de la déforestation que nous évoquions, de la défaunation aussi, c'est-à-dire la diminution de la biodiversité du côté des animaux et peut-être la déshumanisation.
Exactement. Alors être optimiste aujourd'hui, c'est un peu une gageure. Si on sait qu'en un siècle, l'Amazonie a perdu entre 15 et 20% de sa superficie de forêt, et que la déforestation a repris de plus belle, parce qu'il y avait eu des lois qui avaient été faites il y a quelques années au Brésil, mais elles n'ont jamais été appliquées. On ne condamne pas ceux qui détruisent la forêt, donc elle reprend de plus belle. Je crains, hélas, qu'il faut ne pas trop rêver, ou alors rêver pour oublier. Je ne sais pas, mais en tout cas, le futur est bien sombre.
Voilà une tonalité qui n'est pas joyeuse pour terminer notre conversation. Vous considérez que les incompréhensions des Occidentaux, c'était le thème de notre émission de ce matin, Stéphane Rostin, tel qu'on a pu les apercevoir au moment où ils apportaient tant de mots, en particulier microbes de toutes sortes, et brutalité, que cette incompréhension sous d'autres formes perdure pratiquement intacte aujourd'hui.
Alors, pour avoir une note d'optimisme,
Je l'attendais.
Pense qu'il y a une pression du public de plus en plus forte vers l'écologie, vers écouter la nature, ne plus être des simples consommateurs de la terre, mais de savoir se marier de façon un peu plus harmonieuse avec elle. Et je pense que cette pression du public finira bien par gagner et par arriver à convaincre les puissants de ce monde à changer leur approche.
Eh bien voilà qui est une tonalité préférable et qui encourage l'action et non pas la résignation. Stéphane Rostin, merci d'avoir été à ce micro ce matin. Je rappelle, Stéphane Rostin, le titre de votre ouvrage qui a inspiré cette émission, Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes, publié chez Belin en 2017. Il y a d'autres ouvrages encore plus savants que vous avez offerts et qui se retrouveront naturellement sur notre site. Vous tenez aussi à ce que je rende hommage au livre de Peter Fleming. Par parenthèse, c'est le frère de Ian Fleming, l'auteur de James Bond. Peter Fleming, un aventurier au Brésil, un livre plein d'humour qui remonte à 1933, publié récemment dans une traduction française chez Phébus. Et puis, dans l'admirable petite collection Découverte, le livre d'Alain Gerbrand, L'Amazone, un géant blessé, Gallimard, 1988. Vous pourrez trouver, mes chers auditeurs, une bibliographie plus complète, vous le savez, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, ce sera le temps des pèlerinages, notamment du pèlerinage de Chartres. Des pèlerinages C'est une histoire qui mérite l'attention et qui renseigne sur beaucoup de comportements, non seulement religieux, mais collectifs. Les pèlerinages sur tant de routes. Point d'exclamation, point de suspension, comme vous voudrez. Je recevrai Dominique Julia, qui vient de publier un livre important sur ce thème. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Guillaume Cotte et Nathalie Lempereur, réalisée par Anne Kobilac, avec Valérie Lavalard à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.